Alors, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien encore une fois ce matin. Pour débuter, pour commencer, on va lire un passage des Écritures dans Éphésiens au chapitre 1. On va commencer en lisant un passage dans Éphésiens 1. Alors, je vous invite à tourner avec moi si vous avez vos Bibles. J'espère que vous les avez. Éphésiens 1 à partir du verset 15. Éphésiens 1, 15, la parole de Christ nous dit « C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. » Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints? Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force? Il l'a déployée en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut être nommé non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. » La semaine dernière, on a commencé la leçon 5 sur la prière, comment on peut dépendre de Dieu dans la prière et dans notre poursuite des affections spirituelles, dans notre poursuite de grandir dans la sainteté pour glorifier Dieu par nos vies. Dans notre poursuite d'avoir une passion pour Dieu qui se manifeste dans nos pensées, dans nos cœurs, dans nos actions, on a appris, il y a une chose qu'on doit apprendre, c'est dépendre de Dieu dans la prière. Et ce qu'on voit dans Éphésiens 1, en fait, c'est qu'à travers les Écritures, Dieu nous donne des modèles de prière. Quel doit être le contenu de mes prières? Qu'est-ce que je dois prendre le temps de dire à Dieu? Sur quoi je devrais centrer mes pensées? Et lorsque la parole de Dieu nous montre quel est le désir de Dieu, et c'était le désir de l'apôtre Paul, mais je pense que c'était le désir, c'est le désir de Dieu aussi. Ce que Dieu désire par-dessus tout, c'est qu'on puisse saisir dans nos cœurs combien l'amour de Dieu est tellement grand. Ce qu'il a accompli pour nous surpasse tout ce qui peut être accompli. Et Jésus-Christ a été placé avec autorité au-dessus de toute autorité, toute dignité, tout autre nom qui peut être nommé dans tous les siècles. Christ est glorieux. Et ce que Paul désire, c'est que les chrétiens saisissent combien Christ est grand et glorieux et que leur cœur s'attache à lui pour qu'ils puissent devenir fermes dans leur foi et grandir dans la sainteté. Christ est le chef de l'Église. Les chefs, ce n'est pas les pasteurs. Les chefs, ce n'est pas la congrégation. Les chefs, c'est Christ. Et nous sommes soumis à Christ et nous sommes remplis de son esprit pour pouvoir exercer son ministère autour de nous. Et pour ça, on a besoin de rechercher sa face, rechercher ce que lui désire pour nous et dépendre de lui dans la prière. Et donc, ce matin, on va poursuivre cette leçon sur la prière. On veut grandir et on se donne des outils, on se donne des trucs, des moyens pour pouvoir grandir dans la prière, mais pouvoir grandir aussi à travers ça, dans une affection grandissante pour Dieu. Et on veut, juste avant d'aller plus loin, remettre cette matinée entre les mains du Seigneur, commencer avec la prière et prier que Dieu dispose nos cœurs à entendre sa parole, à entendre ce que lui a à nous dire ce matin et qu'on puisse... ça puisse se répercuter dans une vie sainte à la gloire de Dieu. On va se courber ensemble. Seigneur notre Dieu, on voit dans ce passage combien grande est l'œuvre que tu as accomplie pour nous en Jésus-Christ. Seigneur, tu veux qu'on saisisse quelle est l'espérance qui s'attache à cet appel de l'Évangile qu'un jour, par lequel tu nous as appelés à toi. Une espérance qui ne peut ni se corrompre, ni se flétrir, qui nous est réservée dans les cieux et que déjà nous pouvons vivre avec toi, mais on va le vivre pleinement à la fin lorsque tu reviendras. On veut saisir, Seigneur, la richesse de cette gloire, de l'héritage que tu réserves aux saints, pour que nos yeux, les yeux de notre cœur ne soient pas centrés sur nos faiblesses, nos problèmes, nos épreuves, mais qu'à travers ces épreuves, Seigneur, nos yeux soient tournés vers toi, que nos cœurs soient centrés sur toi et que nos prières soient affectées par ce cœur illuminé qui voit la gloire de Christ comme étant la chose la plus précieuse à poursuivre et qui nous donne réellement la joie et le bonheur par le Saint-Esprit. Seigneur, quand je regarde la semaine qui vient de passer, hier, je faisais un bilan de cette semaine et je voyais combien la poursuite de la gloire de Christ n'a pas toujours été mon seul but, le but que je cherchais à poursuivre à travers tous mes autres buts, tous mes autres objectifs. Mais ce matin, Seigneur, avec mes frères et sœurs, placés devant toi, je veux renouveler ce désir et placer devant toi ce seul but, Seigneur, de poursuivre ta gloire et que ma vie puisse être entièrement consacrée à toi, afin que le monde autour de nous voit combien tu es glorieux, qu'ils apprennent à te connaître et qu'ils puissent venir à toi et te décharger leur fardeau à tes pieds, que tu puisses leur pardonner leurs péchés, Seigneur, et qu'ils puissent être sauvés. Seigneur, permets-moi de ne pas avoir une vision centrée sur moi-même, mais centrée sur les autres et sur ta gloire, comme Jésus-Christ avait lui-même. Bénis-nous ensemble ce matin, que ton nom soit glorifié au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, on a commencé la leçon 5 sur la prière et on a vu le premier point. On a défini qu'est-ce qu'était la prière selon le catéchisme de Westminster. Et si on fait un petit peu une révision, le catéchisme de Westminster, qui est un catéchisme de l'Église presbytérienne, un catéchisme qui est une théologie réformée, je tiens à le spécifier, comme je disais la semaine passée, parce que des fois, le mot catéchisme nous fait penser à l'Église catholique et les fausses doctrines, mais ça existe un catéchisme avec une saine doctrine. Le catéchisme, ça enseigne des bonnes choses, ça enseigne, c'est des enseignements, c'est des questions avec des réponses qui nous aident à comprendre la théologie qu'on trouve dans les Écritures. Mais le catéchisme de Westminster répond définit la prière comme une offrande de nos désirs faits à Dieu, dans le nom de Christ, par l'aide de son Esprit, avec la confession de nos péchés et des actions de grâce pour ses bienfaits. Et donc, ce que ça inclut, comme on disait, c'est fondé sur le fait que Dieu est Dieu et que vers lui, il est souverain sur toute chose. Vers lui, je veux me tourner, mais je veux me tourner vers lui en étant fondé sur ce que Christ a accompli pour moi, sur la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Et c'est par l'Esprit de Dieu que je vais élever mes prières avec des louanges et des actions de grâce. Et donc, on a vu ensemble que le premier point, que Dieu s'attend à ce qu'on prie. Dieu assume, dans plusieurs passages des Écritures, assume que ses enfants prient. Que ses enfants prient pour dépendre de lui en toute chose. Et plusieurs endroits dans les Écritures, on voit que Dieu s'attend à ce qu'on prie. On voit Dieu comme un père qui veut prendre bien soin de ses enfants. Et je donnais cette image de biscuits au chocolat que ma mère préparait, puis elle attendait juste qu'on aille les manger. Elle les avait préparés spécialement pour nous, mais M. Gazdic, dans un livre, va prendre cette même image et dire, notre Père Céleste est un bon Père qui a des bénédictions en réserve pour nous. Puis il attend juste qu'on aille à lui pour pouvoir recevoir ces bénédictions-là. Et souvent, ces bénédictions-là ne sont pas matérielles, mais c'est quand on s'en va dans la prière, qu'on se met à genoux devant lui. Il change nos pensées pour qu'on ne soit pas fixé sur les choses matérielles, mais sur ce que lui désire vraiment pour nous. Et je suis émotif ce matin parce que je vois comme moi aussi je lutte avec ça. C'est tellement facile de voir, puis même des fois des bonnes choses, mais désirer plus les choses matérielles ou des choses que les circonstances soient changées plus que rechercher la gloire de Christ à travers les circonstances. Et où je m'en allais avec ça, en tout cas. Dieu a des choses en réserve et des bénédictions pour nous, puis c'est quand on va à genoux devant lui qu'il change notre cœur et qu'on goûte ces bénédictions-là. Et donc, c'est ça. Dieu est un bon papa. Puis même si des fois, on a l'impression que pourquoi il permet que je vis ça? Puis il me semble que c'est un père, un Dieu qui est un bon père, il ne permettrait pas ça dans ma vie, puis il n'aurait pas dû faire ça de même. Qu'est-ce qu'il veut à travers ça? Venez à moi. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués. C'est pénible, c'est difficile, je t'ai amené là pour que tu viennes à moi. Et Dieu s'attend à ce qu'on vienne à lui, qu'on aille à lui dans la prière. Et ça me fait penser, je viens souvent avec ces exemples-là parce que j'ai appris beaucoup dans ma relation avec Dieu en devenant moi-même un père. Et je parle de mes enfants encore. Mais je me souviens un moment où Nathan devait avoir à peu près 1 an et demi. Il était dans sa petite chaise de bébé, puis là, il jouait avec un jouet. Puis là, venait le temps de son biberon. Il buvait du lait dans un biberon à ce moment-là. Puis là, moi, je le préparais, on préparait le biberon, tout ça. Puis je préparais Nathan à recevoir le biberon. Puis je savais que c'était un moment dans la journée où il refuserait certainement pas le biberon. Mais il jouait avec un jouet. Et pour qu'il prenne le biberon, j'ai besoin d'enlever le jouet. Et lorsque j'ai enlevé le jouet, oh, il n'était pas content. La crise, puis là, dans ma tête, c'est, il ne sait pas qu'est-ce que je vais lui amener. Il ne sait pas qu'en lui enlevant ce qu'il pensait qui était précieux, je lui donnerais quelque chose d'encore plus précieux. Et souvent, on est comme ça avec Dieu. On est comme on désire quelque chose, puis on voit que Dieu veut nous l'enlever. Non! Puis là, on sait, mais Dieu, il veut nous donner ce qu'il y a de mieux. Et Nathan, quand j'ai donné le biberon, c'était mieux. Puis même sa chance, ce qu'il a reçu, si j'avais donné le choix entre le jouet et le biberon, il aurait pris le biberon. Parce que c'était un moment où il y avait besoin, puis c'était ça. Et c'est la même chose avec Dieu. Des fois, Dieu nous enlève des choses. Ça ne me tente pas que Dieu m'enlève ça, mais Dieu veut le mieux pour nous. Il faut garder ça à l'esprit, que Dieu est un bon Père, que même s'il nous fait passer à travers des moments difficiles, lorsqu'on les surmonte avec lui, Dieu nous bénit à travers ça. Et les bénédictions de Dieu, ce n'est pas juste des bénédictions matérielles. Les bénédictions matérielles et les richesses, ils vont être là au ciel. Inquiétez-vous pas. Okay? Lorsqu'on va être rassasié de la présence de Dieu, c'est là qu'il va nous bénir de sa présence. On va être les plus riches qui auront jamais existé dans la présence de Dieu. En attendant, il est déjà lui-même notre richesse. Et c'est ça la bénédiction qu'on a, d'avoir Dieu pour ami, pour père. Et dans un sens, c'est ce que Dieu veut qu'on fasse, c'est qu'on s'approche de lui. Donc, Dieu s'attend à ce qu'on prie, parce que Dieu a des bonnes choses en réserve pour nous. Mais, comme je disais, on a mentionné quelques difficultés. Pourquoi on a de la difficulté à prier? Pourquoi les chrétiens prient moins? Pourquoi on lutte avec la prière? Et on a mentionné plusieurs choses, mais une des choses, je pense, qu'on a besoin de réaliser, c'est que prier, ça s'apprend. C'est pas quelque chose qui vient comme ça. Ça m'est arrivé souvent de voir des jeunes chrétiens, des gens qui viennent de naître de nouveau, qui arrivent dans un petit groupe, puis là, ça se met à prier. Puis là, ouf, là, je ne sais pas comment faire ça, moi, là. Qu'est-ce que je dois dire? Qu'est-ce que je dois faire? Puis ils sont tous inquiets de que ça soit bien formulé. Là, il y a un chrétien de 30 ans à côté d'eux autres, là, 30 ans de vie chrétienne avec des belles paroles, tout ça. Puis là, moi, je ne parle pas de même, là, je ne sais pas. Il faut que ça soit simple, comme un enfant. Qu'est-ce que tu as le goût de dire à Dieu? Dis-le. Puis, tu sais, des fois, avec les années, là, on prie, puis on prend un certain ton. Mais moi, j'ai déjà entendu quelqu'un prier, puis comme s'il parlait à son ami en face de lui. Là. Ça, je trouve ça plus intime. Puis même des fois, j'aime ça. Arrêter, tu sais, on est habitué, on a grandi dans l'Église. Puis là, on a le ton quand on prie. « Ah, Seigneur, merci pour ta grâce envers nous. » C'est comme si on chantait, là, tu sais. Mais à un moment donné, je me suis imaginé... Mettons que Jésus est assis en face de moi et je jase avec. Là. Hey Jésus, toi, t'es pas mal hot. Non, mais c'est vrai. Hey, tout ce que tu as fait pour moi, là, vraiment, là, c'est incroyable. Tu m'as tout donné. Pourquoi tu as fait ça? Moi, je suis pourri, je suis un pécheur. Tu sais, parler comme je parle à un ami. Ça change la perspective des fois. Puis des fois, c'est comme si. En étant à notre ton et notre structure de prière, on se perd à un moment donné. Mais si je fais comme si j'y parlais, comme si je prenais un café avec crainte et respect aussi, là, je ne suis pas en train de traiter Jésus comme « Hey buddy, Mais moi, j'avais mon chum. Il y a un respect. Mais quand même, tu sais, comme un ami qu'on respecte. Là. Et puis, juste parler avec lui, ça change des fois notre perspective. Dire, hey, j'ai une relation intime. Là. Je peux parler normalement à Jésus. Fait que, en tout cas, c'était une petite parenthèse comme ça. Là, des fois, je m'égare de mes notes. Mais prier, ça s'apprend. Et donc, une des manières d'apprendre à prier, c'est on apprend à prier en priant. Hein? Si je ne prie pas, j'apprendrai pas à prier. C'est la même chose comme quand j'apprends une langue. C'est le fun à cette heure avec les petites bébelles. Là, il y a des applications qu'on peut apprendre des langues. Là, j'ai dans un désir de peut-être lire l'allemand théologique à un moment donné, bien, j'ai commencé à apprendre l'allemand sur... pas évident, là. Mais des petites leçons qui t'aident à progresser. Tout ça. Fait que j'ai commencé à apprendre l'allemand. J'ai fait ça une couple de jours au début de la semaine. Puis là, après ça, j'ai sauté une couple de jours, je suis revenu. C'est quoi donc ce mot-là? Ah oui, je l'ai appris, je m'en souviens plus. Comment il s'écrit, puis tout ça. Là. Si je ne pratique pas, c'est difficile d'apprendre. C'est difficile de garder une bonne habitude, puis de tout emmagasiner. Et prier, c'est la même chose. Comme j'ai besoin de pratiquer à parler une nouvelle langue, j'ai besoin de me pratiquer en priant. Le problème, souvent, lorsqu'on arrive pour prier et qu'on a de la difficulté, c'est qu'on n'a pas de plan. On n'a pas de structure. On ne sait pas comment s'y prendre. On arrive devant Dieu et puis, par où je commence, là? C'est le fun d'avoir un plan, mais des fois, ça, c'est d'aller avec notre cœur, tout simplement. Okay? Des fois, l'Esprit de Dieu nous pousse à aller prier puis, parce qu'il y a quelque chose de particulier qui arrive. Allons-y avec notre cœur. Mais des fois, on veut s'arrêter, prendre un temps pour prier. Pas que nos pensées aillent d'un côté et de l'autre, on veut se concentrer. Alors, c'est bon d'avoir un petit plan qui nous aide à avoir ce temps de prière-là. Et j'ai, le plan que je vous propose, c'est un plan qu'on retrouve dans plusieurs livres et qui est inspiré de Matthieu 6 et on l'utilise un peu quand on fait des temps de prière en Église. Je l'ai appelé les 4 R de la prière. 4 R de la prière. OK? Fait que ça, c'est facile à retenir. Premièrement, lorsqu'on vient devant Dieu, on va venir avec révérence. Un peu comme Matthieu 6. Si on va dans Matthieu 6, on va aller lire le passage, puis ça va nous guider un petit peu dans ce plan-là que le Seigneur nous donne. Parce qu'en fait, ce plan-là nous vient du Seigneur Jésus. Ses disciples lui ont dit, « Hey Seigneur, apprends-nous à prier. » Et puis Jésus, il a donné quelques instructions, puis il dit, « Voici comment vous devez prier. » Alors, on a besoin de considérer ce que Jésus nous dit. Ça commence avec « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Ça commence avec Dieu, une prière centrée sur Dieu. Qui est Dieu? Lorsque je viens dans la prière, je veux centrer mes pensées, non pas sur moi-même, mais sur ce Dieu-là qui est grand, qui est au-dessus de toute chose. Notre Père qui est aux cieux, ça signifie sa souveraineté, qui est élevé, qui a toute autorité. C'est lui qui règne. Que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit saint. Que ton nom soit sanctifié dans ma vie aussi. Ça veut dire que moi aussi, je veux vivre une vie sainte pour que je puisse te glorifier à travers ça. Que ton règne vienne dans ma vie. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et donc, on centre nos pensées sur Dieu. Et on cherche à glorifier Dieu puis à centrer nos regards sur lui. Et souvent, ce que ça a comme effet, c'est qu'en regardant, en considérant la majesté, la sainteté, la perfection, les œuvres de Dieu, comme à Ésaïe, on a lu Ésaïe 6 dans les débuts du cours d'un autre un dimanche dans le mois passé, ça nous pousse à genoux et à répondre à Dieu. Devant ta sainteté, devant ta majesté, je peux venir avec une repentance parce que je réalise que j'ai péché, Seigneur, cette semaine. Je me suis mis en colère envers un de mes enfants. J'ai eu des regards tournés vers des choses qui ne te glorifiaient pas. Puis je désirais des choses que tu ne veux pas que je désire. Seigneur, je veux te demander pardon pour ces choses-là, parce que devant ta sainteté, puis parce que tu m'as fait de moi ton enfant, je veux te glorifier, je veux être saint, puis sanctifie-moi, Seigneur. Donc, il y a une réponse devant la sainteté de Dieu, il y a une réponse qui est donnée. Ensuite de ça, je peux venir avec des requêtes des requêtes personnelles, je pense qu'on a besoin d'aller vers des requêtes personnelles. Philippiens 4:6 nous 4:6 et 7 nous enseigne à aller faire connaître nos besoins à Dieu. On a besoin de dire, Seigneur, j'ai besoin de... Mais des fois, quand on se prend le temps de s'arrêter, on va aller lire ça un petit peu on va voir ça un peu dans prier avec les Écritures. Mais des fois, lorsque je prends les Écritures pour enrichir ma prière, qu'est-ce que ça a comme effet? C'est comme si mes besoins changent. Comme je disais tout à l'heure, ma perspective change. Puis mon besoin, c'est plus tellement que Dieu réponde à mon besoin de, mettons, circonstances. Je vis une circonstance difficile. Seigneur, délivre-moi de cette circonstance-là. Ou peut-être que ma requête va changer. Va dire, Seigneur, à travers ça, que mon cœur soit sensible à ce que toi, tu veux m'apprendre à travers ça. Puis si tu le permets que j'en sois délivré, bien, gloire à toi. Si c'est ta volonté que j'en sois délivré, viens faire ton œuvre. Mais si tu me fais persister dans cette épreuve-là, aide-moi à apprendre ce que tu veux m'apprendre. Ça change le besoin. Je fais connaître mon besoin à Dieu, mais plutôt dans un sens, je veux t'honorer, je veux te glorifier, je veux premièrement faire ta volonté. Donc, mes requêtes, des fois, avec les Écritures, sont nourries et mes besoins peuvent être changer la perspective de mes besoins. On a besoin aussi, dans nos requêtes, d'intercéder pour les frères et sœurs. Paul appelait l'Église d'Éphèse dans Éphésiens 6 à prier pour lui. Même dans Colossiens 4, il va dire de prier pour qu'il y ait de la hardiesse et de l'assurance lorsqu'il proclame l'Évangile. Priez pour nous. Alors, on a besoin d'intercéder pour nos frères et sœurs qui vivent des difficultés, pour ceux qui sont en train d'accomplir l'œuvre de l'Évangile, des missionnaires. On a besoin d'intercéder et de regarder et d'amener au Seigneur ces gens-là. Et finalement, terminer. Là, ce qu'on voit dans Matthieu 6, c'est la première partie, c'est la révérence. Après ça, on voit plus la requête, « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien », mais on voit aussi la réponse, « Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés ». Donc ça, c'est la réponse, les besoins, « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, ne nous induis pas en tentation ». On a besoin de venir au Seigneur et d'implorer son aide pour surmonter le mal. Et puis finalement, un dernier verset qui dit « Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. » On revient avec la gloire, glorifier Dieu avec reconnaissance des actions de grâce. Maintenant, je voulais prendre, juste pour vous aider, vous donner des pistes de comment on peut mettre en pratique ce plan-là, mais en priant à partir des Écritures. Je vais passer le point sur on apprend à prier en méditant les Écritures. Puis après ça, on va faire l'exercice en prenant le passage de Éphésiens 1 qu'on a lu ce matin. Et comment on applique ce plan-là avec les Écritures. Okay? Mais un des moyens efficaces pour apprendre à prier, c'est le deuxième élément, c'est en méditant les Écritures. Puis là, je parle de méditer. Comme on a parlé la semaine passée ou voilà deux semaines, de prendre le temps de lire les Écritures, mais de réfléchir, de méditer sur une portion du passage. Parce qu'en fait, c'est comme la méditation des Écritures, c'est le chaînon manquant entre la lecture de la parole et la prière. Si je veux prier avec les Écritures, je le lis, mais lorsque je prends le temps de méditer, ces versets-là deviennent la prière que je formule à Dieu. Et prendre le temps de méditer les Écritures, des fois on s'arrête et on veut prier. Si tu ne sais pas trop quoi dire, prends un passage des Écritures. Lis-le. Note les morceaux qui te touchent le plus, puis prends le temps de méditer là-dessus, puis prie-le au Seigneur. Je vais vous donner un exemple de ça. Et dans un sens, lorsque notre désir, c'est que la parole de Dieu reste gravée sur nos cœurs pour qu'on puisse la mettre en pratique, on a besoin de prier avec les Écritures, de prier ce que Dieu nous apprend dans les Écritures. Puis un grand homme de prière, Georges Müller, je l'ai déjà mentionné, mais il exprime cette idée de prier avec les Écritures comme suit. La différence Alors, entre ma façon précédente de prier et celle que j'utilise actuellement est la suivante. Auparavant, je me levais, je commençais à prier aussitôt que possible. Et généralement, je passais tout mon temps avant le petit déjeuner dans la prière. Je commençais toujours par la prière. Mais quel était le résultat? Bien souvent, je passais un quart d'heure, une demi-heure et même parfois une heure sur mes genoux avant d'être pleinement conscient que j'avais obtenu du réconfort, de l'encouragement, une attitude d'humilité. Et souvent, après avoir souffert beaucoup par mes égarements de pensée pour les 10 ou 15 ou même 30 minutes, je commençais vraiment à prier. Je ne souffre plus de cette manière maintenant, car mon cœur étant nourri par la vérité et étant amené dans une réelle intimité avec Dieu, je parle maintenant avec mon Père et mon ami des choses qu'il a lui-même apportées devant moi par sa précieuse parole. Cela m'étonne énormément que je ne me sois pas rendu compte de cela plus tôt. Mais maintenant, puisque Dieu m'a enseigné cela, il est plus clair pour moi que la première chose qu'un enfant de Dieu doit faire chaque matin, c'est d'obtenir la nourriture pour son âme. Maintenant, quelle est la nourriture de notre âme? Non pas la prière, mais la parole de Dieu. Et ici encore, non pas la simple lecture de la parole de Dieu qui a pour effet de passer à travers notre pensée comme de l'eau qui passe à travers un tuyau, mais considérer ce que nous lisons en le méditant et en l'appliquant à nos cœurs. Et donc, qu'est-ce que ça fait de prier avec les Écritures? C'est que ça, on apprend quelle est la volonté de Dieu pour nous. Puis en méditant là-dessus, mon cœur se tourne vers Dieu. Il dit, Seigneur, je veux accomplir ça aujourd'hui. Aide-moi à mettre ça en pratique aujourd'hui. Et lorsque on vient devant un passage des Écritures, c'est pour ça que souvent, moi-même, je vais commencer avec en lisant un passage, un psaume. Et ça, en le méditant, ça se transforme en prière à Dieu. Et là, ma prière est nourrie. Je n'arrive pas devant Dieu en pensant à toutes sortes de choses. Non, je pense à ce que je viens de lire. Je dis à Dieu ce que je viens de lire. Là, je suis concentré sur ce que Dieu veut m'apprendre et comment je dois l'appliquer dans ma vie. Et donc, si on prend Éphésiens 1, les versets 15 à 23, j'aimerais qu'on puisse pratiquement passer à travers le plan révérence, repentance, réponse, requête, reconnaissance. Et puis, qu'on voit comment on arrive à passer à travers cette structure-là, mais avec les Écritures. Premièrement, la révérence. Si je prie à partir des Écritures puis que je veux louer Dieu, j'ai besoin d'identifier dans le passage qu'est-ce que Dieu m'apprend sur lui et sur ce qu'il a fait pour moi ou sur ce qu'il fait pour moi. Donc, si on lit Éphésiens 1, les versets 15 à 23, si vous l'avez sous les yeux, peut-être que vous pouvez déjà identifier dans le passage qu'est-ce que vous apprenez sur Dieu dans ce passage-là, ou ce qu'il a fait pour nous, ou ce qu'il continue de faire pour nous. Qu'est-ce que, si vous avez, vous pouvez, à partir de ce passage-là, là, nourrir une louange à Dieu. Qu'est-ce que vous identifiez? On le fait ensemble, là, OK? Prenez le temps de peut-être identifier un verset ou deux où vous voyez que Dieu se révèle sur qui il est, sur ce qu'il a fait. Oui, vas-y Camille. OK. OK. Jésus est Seigneur. Tu vois ça, verset 15. OK. Ayez entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus. Pas juste la foi en Jésus, mais la foi dans le Seigneur Jésus. Déjà là, c'est juste méditer deux, trois mots. C'est-à-dire, Jésus est Seigneur. Puis on loue. Puis tout ce que ça l'implique. Et tout ce que ça l'implique, ça veut dire, je dois être soumis à son autorité. Là, la réponse va venir à ça aussi. Mais même, Jésus est Seigneur, et à la fin, qu'est-ce qu'il va dire? Dans un sens, c'est que Dieu l'a fait asseoir à sa droite, dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, toute autorité, toute puissance, toute dignité, tout nom qui peut être nommé non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Jésus est Seigneur, ça veut dire qu'il est au-dessus de toute chose. C'est Dieu qui lui a donné autorité. Seigneur Jésus, tu es digne de recevoir la gloire et l'honneur aujourd'hui par ma vie. Je veux te louer parce que tu règnes. Tu es le roi. Pas juste parce que pour ce que tu as fait, mais pour qui tu es. Tu es le roi souverain sur toute chose. C'est toi qui es au-dessus de tout. Je veux te louer pour ça, puis je veux fléchir le genou devant toi parce que tu es glorieux. D'autres choses qu'on apprend sur Dieu, sur qui il est, ce qu'il a fait. Il est le Père de gloire, OK? Le plus glorieux de tout, le Père de la gloire. Puis, encore une fois, l'image, souvent, lorsqu'on pense à la gloire de Dieu, moi, c'est Ésaïe 6 qui me revient, hein? Toujours l'image d'Ésaïe et de Dieu qui est assis sur le trône, les pans de sa robe, il y a la fumée, la lumière resplendissante, les anges crient « Saint, 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 l'Éternel ». C'est devant ce Dieu-là que je suis en train de m'approcher, là. Puis je fléchis le genou, puis je veux louer, je veux l'adorer. T'es le Dieu glorieux. Pas moi la gloire, mais à toi seul. La louange vient. OK, c'est bon. Fait qu'on identifie comme ça. On va aller à l'autre étape maintenant. Quelle est ma réponse à Dieu devant cette gloire-là qui est manifestée, devant l'autorité de Christ? Et même les intentions de Dieu envers nous qui sont mentionnés. Verset 18. Oui, c'est ça, c'est plus la requête qui va venir. Mais en réalité, on peut déjà, en réponse à sa gloire, venir à lui puis dire, dans un sens, verset 22-23, il a tout mis sous ses pieds, il l'a donné pour chef suprême à l'Église, et là, on reconnaît qu'il est le chef, qu'il est le roi, et ça implique quelque chose pour nous. Mais souvent, ça va être, comme je disais tout à l'heure, une confession devant sa sainteté, devant sa gloire. Je vais confesser un péché, je vais dire, « Seigneur, j'ai besoin de réaliser que c'est pas moi qui règne, mais c'est toi. J'ai besoin que tu m'en... C'est à toi que je veux donner la gloire et l'honneur aujourd'hui. C'est pas à personne d'autre. Puis j'ai besoin que tu... Je veux te confesser les moments où j'ai essayé de prendre la place, puis j'ai essayé de prendre le volant de ma vie. » Puis d'essayer de m'asseoir sur le trône de ma vie à la place que ce soit toi qui sois assis là. Et répondre à Dieu dans une repentance. Ensuite de ça, il y a des requêtes. Verset 18. L'une des requêtes, c'était la requête de l'apôtre Paul, mais c'est clairement ce que Dieu désire, c'est qu'il illumine les yeux de votre cœur pour qu'il vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Seigneur, si tu n'illumines pas les yeux de mon cœur, je ne saisis pas ton plan pour moi. J'ai besoin que tu viennes faire ta lumière, que tu viennes ouvrir mes yeux, que tu viennes me faire lumière dans mon cœur et que tu m'aides à comprendre ce que tu veux m'enseigner. Aide-moi à apprécier l'espérance que tu me réserves dans les cieux. Je regarde beaucoup les moments présents, mais je veux regarder à la fin aussi. C'est précieux ce que tu me réserves. Puis je veux vivre ma vie en fonction de ce qui s'en vient. Je suis en train de cheminer, je trouve ça difficile, mais... C'est comme le voyage du pèlerin, hein? Vous avez déjà lu? Qui a déjà lu le livre Le voyage du pèlerin? Quelques-uns, hein? Un livre à lire sur la vie chrétienne, les luttes, tout ça. C'est une allégorie de la vie chrétienne, OK? Une histoire d'un pèlerin qui, à un moment donné, un évangéliste lui parle de la parole de Dieu, saisit l'évangile, puis là, il commence une marche vers la cité céleste. Et à travers ce parcours de sa marche vers la cité céleste, il va rencontrer des fun, ça va être le fun, il y a des bons amis qui l'accompagnent, mais des fois, c'est pas des bons amis qui viennent le déranger, qui l'amènent à se détourner du chemin qui s'amène à la cité céleste. Il y en a qui essaient de passer par, plutôt que de passer par, t'es-tu passé par la croix, t'es-tu passé par la petite porte? Non, ils ont passé par un autre chemin, puis eux autres, ils viennent nous déranger dans notre marche. Et c'est toujours cette image-là, souvent dans la vie chrétienne, c'est que je marche vers la gloire éternelle, l'espérance que Dieu me réserve, la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Seigneur, apprends-moi à apprécier ce que tu me réserves, puis que ça soit ce qui m'aide à vivre aujourd'hui à travers les épreuves. Ensuite de ça, il y a l'infinie grandeur de sa puissance, qui se manifeste avec efficacité par la vertu de sa force, la puissance de Dieu qui a été manifestée en Christ. Verset 20. Il l'a déployé en Christ en ressuscitant des morts, en le faisant asseoir à sa droite, etc. Et donc, tu es tout puissant. Et je veux saisir cette puissance-là que tu m'aides à saisir qui tu es et combien tu es puissant pour m'aider à traverser. Donc, ça, c'est les requêtes personnelles. Maintenant, on peut intercéder. Après ça, pour les autres, pour l'Église. si l'Église saisit l'espérance qui s'attache à son appel, la richesse de la gloire, de l'héritage qu'il réserve aux saints, si l'Église saisit c'est quoi la puissance de Dieu dans la résurrection de Jésus-Christ, ça change notre façon de penser puis d'agir aussi. On va voir. Évidemment, Éphésiens continue avec des éléments plus pratiques après. Ça va se manifester dans l'humilité qu'on a les uns envers les autres. Dans l'humilité dans le foyer, que les époux doivent servir leur épouse comme Christ a aimé l'Église. La femme doit respecter son mari. On doit respecter les autorités. Et donc, ça va se manifester à des actions, de saisir l'Évangile dans un sens, de saisir la grâce de l'Évangile dans mon cœur, puis de le saisir et de le comprendre, ça va manifester dans des actions. Et donc, dans ma vie et dans la vie des autres, on peut prier. Et donc, on connaît des fois des gens qui vivent une situation difficile, puis on perçoit que cette personne-là, elle a quelque chose de l'Évangile qu'elle n'a pas saisi, ou qu'elle n'a pas réalisé que Dieu l'amène dans un endroit pour saisir une vérité de l'Évangile. Seigneur, illumine les yeux de son cœur parce qu'elle a un conflit avec madame une telle, puis elle a besoin de saisir la grâce que tu lui as donnée pour qu'elle puisse apprendre à pardonner comme Dieu a pardonné en Christ. C'est ça qu'elle a besoin, saisir l'Évangile, et c'est ça notre plus grand besoin, saisir l'Évangile pour l'appliquer pratiquement. Et donc, dans notre intercession, on prie avec les Écritures aussi. Et on apprend à prier comme ça. Et donc, on peut aller aussi avec nos besoins, mais en priant avec les Écritures, on cherche les requêtes. Qu'est-ce que Dieu s'attend de moi à travers ça? Et maintenant, la reconnaissance à Dieu, sachant que Dieu va répondre à nos prières, sachant que Dieu a déjà répondu à nos prières, on peut élever des actions de grâce. Seigneur, je vois quand même, l'Église a besoin de grandir dans certains domaines, puis il y a des éléments où je vois des familles, des couples, des individus qui ont besoin de grandir à certains endroits. Mais je vois dans l'ensemble que l'Église grandit, de saisir davantage l'Évangile, est en train de le vivre de plus en plus. Je te remercie pour ça. Je m'attends à ce que tu en fasses encore plus, mais je te remercie pour ce que tu as accompli déjà. Je te remercie parce que dans ma vie, tu m'as fait surmonter certaines épreuves, puis aujourd'hui, je vois les épreuves différemment, puis je vis maintenant avec une perspective différente. Tu m'as aidé à surmonter certains péchés. Puis, Seigneur, je te remercie pour l'œuvre que tu as accomplie dans ma vie, puis l'œuvre que tu continues d'accomplir dans ton Église. Et on est reconnaissant à Dieu pour ce que Dieu nous donne, puis ce que Dieu accomplit en nous. Et donc, ça, c'est le... On passe à travers le plan, mais j'espère que ça vous aide un petit peu, là. De dire, quand je vais prier, puis je prends les Écritures, j'espère que ça va nourrir vos prières, pour que vous puissiez réellement vivre dans la volonté de Dieu, puis le dire à Dieu, dépendre de Dieu. Si je ne vais pas à Dieu avec ces requêtes-là, comment ça peut prendre réellement forme dans ma vie? J'ai besoin que Dieu m'aide à vivre ça. Si je ne prie pas ça au Seigneur, je vais prier pour plein d'autres choses, mais ce que Dieu veut accomplir, c'est ça, Seigneur, que ta volonté soit faite dans ma vie, sur la terre comme au ciel, et que Dieu puisse être glorifié à travers ça. Alors, ça, c'était pour prier à partir des Écritures, mais prier avec les Écritures et un plan en même temps. Maintenant, on apprend à prier en priant avec les autres. Proverbe 13:20, j'ai trouvé ça intéressant de prendre ce proverbe-là. « Celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se tient, parce qu'il manque un mot, avec les insensés, s'en trouve mal. » Si je veux devenir sage dans un certain domaine, ce proverbe-là me dit, ce proverbe de sagesse me dit, tiens-toi avec les sages, fréquente les sages, sois influencé par des gens qui sont sages, qui sont des modèles. Et donc, il faut choisir des modèles de prière avec qui je veux prier, me tenir. Il y a des moments dans les groupes de prière où on voit que le Seigneur a donné à certaines personnes un don de prendre du temps régulièrement dans la prière. Dans un sens, c'est des gens de prière. Et puis, tu vois que quand ils prient, là, ils ont une maturité, pas parce qu'ils ont les belles paroles, mais parce que tu sens l'humilité dans leur cœur. Tu t'entends l'humilité. C'est comme, mon ami, j'aimerais savoir un cœur comme le tien. Puis prier comme ça, moi aussi. Et j'apprends à prier avec cette personne-là. Une chose que je retiens du ministère de M. Gazdic à Québec, c'est son amour pour l'œuvre de Christ. Dans ses prédications et dans ses prières. Seigneur Jésus, on veut te remercier pour la grâce que tu as eue envers nous. Tu es venu mourir à la croix pour qu'on puisse être réconcilié avec Dieu. Ça remplissait ses prières. Comment je peux m'approcher de Dieu dans la prière si Christ n'a pas accompli cette œuvre-là? Impossible. Je ne peux pas m'approcher de Dieu si Christ n'a pas accompli l'Évangile, ce qui nous rend capable d'entrer dans la présence de Dieu. Et ça devrait être notre première reconnaissance à Dieu lorsqu'on vient dans la prière. Seigneur, je me présente devant toi, je peux m'approcher du trône de ta grâce parce que j'ai un souverain sacrificateur qui a subi pour moi ce qui me permet maintenant d'entrer dans ta présence. J'ai traversé le voile, je suis dans le lieu très saint maintenant à cause de ce que Christ a accompli. Je veux te dire merci pour ça. Et d'entendre M. Gazdic, toute mon enfance, jusqu'à l'âge à peu près 15 ans où il s'est retiré du ministère à Québec, Seigneur Jésus, on veut te remercier pour ta grâce envers nous, pour l'œuvre que tu as accomplie pour nous à la croix. Ce n'était pas tout le temps formulé comme ça, ok, je donne, mais... Seigneur Jésus, nous voulons te remercier. Ça, c'était tout le temps là. Ça commençait comme ça. Et c'est que j'ai appris à prier en écoutant d'autres prier, en écoutant des modèles de prière prier. Et lorsqu'on est réunis en groupe, on a souvent des gens qui nous apprennent à prier. On a besoin d'apprendre à prier en priant, mais en priant avec les autres aussi. On a besoin de se tenir ensemble pour prier. Et pour... c'est important de considérer de participer dans un petit groupe pour apprendre à prier. Si vous n'êtes pas dans un petit groupe, je ne veux pas faire dans un sens, nous on encourage énormément ici à l'Église de faire partie d'un petit groupe parce que c'est là que la vie, le dimanche matin, là, on va se croiser, on va croiser quelques personnes, mais de vivre réellement la vie les uns les autres, je pense que ça se passe en plus petits groupes. Alors on encourage à participer dans les petits groupes, mais aussi la vie de prière de l'Église. Des fois, on le fait là, le dimanche matin, on se regroupe en petits groupes et on prie. On va le faire de temps en temps, mais de vivre la vie de prière. L'Église du premier siècle, l'Église de Jérusalem, dans Acte 2, a persévéré dans la prière. Quand est-ce qu'on persévère dans la prière en tant qu'Église? Individuellement? Mais en étant ensemble aussi. Si l'Église persévère dans la prière, les gens sont réunis ensemble pour prier. Et dans les petits groupes, ça nous permet de faire ça. Puis des fois, ça peut être juste un petit groupe de 3 ou 4 personnes. Choisissez-vous des partenaires de prière. Si vous n'avez pas un petit groupe, le mercredi soir, là, moi je travaille, ça ne donne pas d'aller dans un petit groupe. Trouvez 2 ou 3 personnes qui travaillent de nuit comme vous ou de soir. Puis la semaine, mercredi après-midi à 1h, on va vous ouvrir la porte. Là, venez ici, venez prier avec eux autres. Ou allez dans un endroit où vous allez être tranquille. Puis priez avec des partenaires de prière. Si vous n'avez pas accès à un petit groupe ou si vous voulez aller un peu plus en profondeur dans des temps de prière, trouvez-vous des partenaires de prière qui vont ensemble prier avec vous. Et souvent dans le coaching aussi, dans la formation de disciples, un des aspects importants des réunions de formation de disciples, c'est de prendre du temps pour prier ensemble aussi. Faites attention de ne pas trop juste jaser puis faire une étude biblique puis placoter juste sur les Écritures. On veut que ça pénètre dans nos cœurs, puis on veut l'exprimer à Dieu aussi. Donc, on veut prendre un temps dans la prière, prier les uns pour les autres. Et on apprend à prier de cette façon-là. Et j'ai encore beaucoup à apprendre sur la prière. Et lorsque je suis avec d'autres, que j'entends les prières, je dis, moi, je veux prier pour la même chose. Je veux prier pour ça, moi aussi. Je veux apprendre à prier. Donc, réunissez-vous, tenez-vous avec des frères et sœurs qui sont des modèles de prière, puis dites, moi, je veux prier avec toi. Je veux apprendre à prier. Je veux prier avec toi. Trouvez-en, hein, puis peut-être que ça va donner. Vous allez pouvoir vous organiser puis prier ensemble. Ça, c'est important. Pour que Dieu fasse sa volonté dans nos cœurs, dans nos vies et sur la terre, on a besoin de prier ensemble. Alors, on peut apprendre à prier aussi en lisant sur la prière. Il existe plusieurs ouvrages sur la prière qui peuvent nous aider à grandir dans cette discipline-là. Je vous en suggère quelques-uns qui sont réellement utiles. Et donc, on a eu même des nouveaux ouvrages. Là. Je l'ai renouvelé, cette liste-là, justement en préparant. La prière renouvelée de Don Carson. C'est un livre qu'on a déjà utilisé pour enseigner sur la prière ici à l'Église. C'est et Don Carson, ce qu'il fait, c'est qu'il va aller dans les prières de Paul du Nouveau Testament. Et qu'est-ce que Paul priait qui devrait être nos prières aussi? Pour qu'on puisse grandir à prier avec les Écritures, des fois, un guide comme ça. C'est comme un guide qui nous dit, priez avec les Écritures. Priez pareil comme Paul. Paul est un modèle de prière, priez comme lui. Et là, Don Carson est un homme qui expose les Écritures, donc il va aller dans les passages Éphésiens 1, 1 Thessaloniciens 1 aussi, et dans plusieurs passages de ses épîtres où il dit, il exprime des prières à Dieu envers les saints. Et qu'est-ce qu'on retire de ces prières-là pour pouvoir apprendre à prier? Une vie de prière, une vie en prière de Paul Miller, c'est la conférence qu'on a eue là un an déjà sur la prière, le livre de Paul Miller sur une vie en prière. Ça nous aide à apprendre à prier en étant dépendant envers Dieu, mais un peu plus à tout moment. Dire, on a souvent l'image, faut choisir. C'est bien de faire ça, mais en même temps, prier sans cesse veut dire prier à tout moment quand je suis placé devant une situation. Pourquoi on ne prierait pas pour ça? Et des fois, je rencontre des gens pendant la semaine, les gens viennent à mon bureau et expriment des choses, des inquiétudes. Pourquoi on ne prierait pas pour ça maintenant? On va prier pour ça ensemble. Parce que je peux te conseiller, je peux t'aider, mais il faut que Dieu vienne faire une œuvre là-dedans. Et Dieu nous apprenne à grandir. Alors, j'ai cette tendance même... le plus régulièrement possible, avec l'équipe de louange même, quand on pratique, viens dans la prière, Seigneur, on veut te remettre ça. C'est pas notre œuvre, c'est la tienne. On veut agir en étant dépendant de toi. Donc, une vie en prière, ça veut dire continuellement, je fais face à des situations, puis je prie. Et donc, ce livre-là nous aide dans ce sens-là, nous aide à renouveler aussi un cœur, une bonne vision d'un Dieu comme un Père et nous aide à cheminer dans la prière. Voici donc comment vous devez prier de Andrew Murray. C'est un livre qui est divisé en 31 petits chapitres. Vous pouvez prendre ça comme un guide de prière pendant un mois. Il prend un passage, il tourne ce passage-là, il va passer à travers Matthieu 6, et il va tourner ce passage-là en prière. Et donc, vous apprenez à prier avec Andrew Murray. Dans un sens, à la fin du chapitre, tout le temps, une courte prière alimentée avec les Écritures. Ça nous aide à prier. Et puis, trop occupé pour ne pas prier de Bill Hybels. C'est un plus pratique, un peu, avec la structure là, des quatre points que je vous ai donnés tout à l'heure. Il nous aide. Donc, pourquoi ne pas... On a continuellement besoin de grandir dans la prière. Pourquoi ne pas prendre un livre sur la prière, dire, je lis des livres, là, puis... Pourquoi j'en prendrais pas un par année qui va m'aider à grandir dans ma vie de prière? Lisez un livre sur la prière par année pour toujours garder ce désir de vouloir grandir dans la prière et de prier. Fait que on apprend les principes qui peuvent nous guider dans nos temps de prière lorsqu'on lit. En fond, les gens, je vais revenir là-dessus plus tard dans une autre leçon, mais il y en a qui disent, ouais, moi, lire, là, ça me prend tout mon petit change. Moi, j'étais de même. Secondaire, là, les cours de français, la lecture, puis tout ça. Moi, je jouais au hockey. Ça, c'était le fun. Sortais, arrivais de l'école, les devoirs dans le sac d'école, puis ah ouais, let's go, sors la poque, puis on va jouer au hockey. Mais j'ai développé un goût pour la lecture. Ça se développe. OK? Et puis, des fois, c'est juste de prendre une page. Prends un livre, lis une page. Ou lis un paragraphe. Des fois, tu lis un paragraphe, tu te dis, ouais, qu'est-ce qu'il dit après? Ah, c'est bon ce qu'il dit, moi je veux savoir, c'est quoi qu'il dit après? Après ce qu'il dit après. Puis à un moment donné, tu te mets à lire, tu te dis, hey, le livre est bon, j'ai lu deux chapitres aujourd'hui. Mais c'est, voyez la lecture comme quelqu'un qui nous enseigne. On est ici le dimanche matin, on entend des prédications, on entend des enseignements. On est là, on est en train de vous communiquer. Mais un livre, c'est quelqu'un qui a mis par écrit des instructions pour nous. Quand je lis Don Carson sur la prière, c'est comme je m'assisais avec Don Carson puis je prenais du temps avec lui. Hey, comment tu pries, toi? Hey, moi, j'aimerais ça prendre un café avec Don Carson, poser plein de questions. Assieds-toi puis lis son livre. C'est la même affaire. Il va te dire, parce que quand tu vas t'asseoir prendre un café avec, il va répéter ce qu'il a déjà écrit. Là. John Piper a fait une blague à un moment donné. Il dit, j'ai écrit plein de livres. Mais il dit, si tu lis le premier, après ça, je fais juste répéter la même affaire dans les autres livres. Fait que si tu lis le premier, t'es correct. Mais c'est ça. Fait que quand tu apprends à connaître un homme, mais souvent tu lis un de ses livres puis tu apprends, il est un coach. Lisez les bons livres, là. OK? La saine doctrine, là. Puis je vous ai pointé vers des bons livres, puis dans un sens, ça peut vous aider. Mais si vous avez de la difficulté à lire, vous n'êtes pas obligé de lire un livre par semaine. Ou, tu sais, il y en a qui se mettent des objectifs. Là. Ah, moi, je vais lire 2 livres par semaine, puis un livre par jour. Il y en a, ils lisent beaucoup. Mais prends une page, puis lis un paragraphe. Puis demain, lis un autre paragraphe. Puis après-demain, tu liras un autre paragraphe. Puis ça se peut que ça te prenne un an pour passer à travers du livre, mais au moins tu vas l'avoir lu. Tu vas avoir lu quelque chose. Ça va t'avoir nourri, ça va t'avoir aidé à grandir. Tu es accompagné de quelqu'un qui t'aide à grandir. Donc, c'était ma parenthèse sur la lecture. OK. Dieu répond à la prière. Ça, c'est le troisième élément qu'on a besoin de saisir. C'est qu'on a besoin de considérer, c'est que Dieu répond à la prière. On n'a pas un Dieu sourd qui n'entend pas quand on lui parle. Notre Dieu, on va dire, comme Armand le dit à Sola, c'est le seul, le un seul Dieu vivant et vrai, qui n'est pas sourd. Ce n'est pas une idole faite en bois. Lorsqu'on lit Isaïe, il y a toutes sortes de passages là-dessus. Ce n'est pas une idole faite en bois, un Dieu sourd que j'attends la prière puis finalement, il ne m'entend pas. Non, Dieu m'entend. Puis Dieu répond. Peut-être que tu attends un peu des fois, mais Dieu veut ce qu'il y a de mieux pour toi. Et Dieu entend nos prières. Dieu est un père, est un bon berger. C'est notre ami qui entend nos prières puis qui y répond. Dieu veut répondre à nos prières, mais même si parfois la réponse se fait attendre, Dieu répond à la prière. Et prenez le temps de prier, d'aller devant Dieu, puis de persévérer dans la prière. Parce que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Parce que Dieu entend nos prières. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Tu veux vivre la prière? Tu as besoin de mettre ça? Tu as besoin de faire quelque chose aujourd'hui, là? Je veux grandir dans la prière, je veux prier. Qu'est-ce que tu fais là? Premièrement, c'est David McIntyre dans un petit livre qui s'appelle « La vie de prière intime ». Il va suggérer 3 outils pour prendre un temps d'intimité avec Dieu. Premièrement, trouve-toi un endroit tranquille. Entre dans ta chambre, ferme la porte. OK? Matthieu 6, c'est ça. Entre dans ta chambre, ferme la porte, puis le Père qui est dans le lieu secret, il va t'entendre. Trouve-toi un endroit tranquille. À la maison, des fois, c'est difficile. Quand les enfants se lèvent, il faut que je me lève avant. Puis des fois, je dis, je vais me lever à 6 heures, je vais me lever 1 heure avant, mais des fois, ils se lèvent, eux autres, tu sais, puis ça fait du bruit. C'est difficile. Trouve-toi un endroit où c'est tranquille. Puis des fois, ça peut être dans le stationnement avec ton auto quand tu arrives au travail. Tu te parques dans le fond du stationnement, là. Tu prends ta Bible, tu lis un court passage, puis tu pries. Trouve-toi un endroit tranquille, un moment tranquille. Ça, c'est souvent un défi aussi. C'est quand est-ce le moment où tu peux être tranquille? Dans un moment tranquille, dans un endroit tranquille, pour prier. Planifie-le. Ça, c'est une des choses. Peut-être que vous pouvez écrire, « OK, je vais aller prier dans le parc régional à tous les midis. » Ça, c'est moi. Prends la petite hein? Non, je me promène un peu. J'y vais en marchant. Et puis, en marchant, ben c'est ça. J'exprime mon cœur à Dieu. Des fois, en marchant aussi. Hein? C'est pas obligé d'être assis à genoux. En marchant, on peut prier dans ce moment tranquille. Retrouver un cœur tranquille. Ça, c'est souvent ça, la difficulté. Notre cœur est plein de soucis. C'est quoi un cœur tranquille? Un cœur qui reconnaît que Dieu nous accepte dans sa présence lorsque nous nous appuyons entièrement sur l'œuvre de Christ. Je n'ai pas à craindre de me présenter devant Dieu, même si des fois j'ai manqué. Si j'ai péché, je suis très conscient, j'ai péché contre Dieu dans un moment dans ma vie. Un cœur tranquille, c'est quelqu'un qui vient, il dit, « Boy, je ne mériterais même pas de pouvoir me présenter devant toi, mais tu me dis par l'œuvre de Christ, tu m'as pardonné tout. Où irais-je, sinon qu'au pied de la croix? » Puis, tranquille, dire, « Seigneur, tu me rassures par ta grâce parce que tu m'as tant aimé, tu m'as lavé de mes péchés. Maintenant, je viens devant toi humblement. » Un cœur qui reçoit la grâce de Dieu par son esprit, qui nous rend capable de prier. Il y a un verset dans Romains qui dit qu'on ne sait pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais on a besoin de dire, « Seigneur, par ton esprit, rends-moi capable de prier. » Un cœur tranquille, c'est un cœur qui s'appuie sur l'Esprit de Dieu pour prier. Puis un cœur qui se tourne vers les Écritures pour que la prière soit orientée selon la volonté de Dieu. Viens faire silence en mon cœur. Remplis-moi de ta parole. Remplis-moi de ton esprit. Sur l'œuvre de Christ, je m'appuie et je veux prier ça. C'est bon. Donc, quelques questions pratiques. Je vous invite à les lire, à y répondre et qu'on puisse ensemble glorifier Dieu en étant dépendant entièrement de lui. On veut grandir dans un amour puis une passion pour Dieu. On a besoin de dépendre de Dieu pour ça. Dieu nous invite dans sa présence. N'oubliez pas, Dieu nous attend. Il nous attend avec ce qu'il y a de mieux pour nous. On doit y aller. On doit aller devant lui puis attendre qu'il réponde à nos prières. On va se courber ensemble. Seigneur, lorsque j'enseigne cette leçon, puis lorsque je lis les Écritures par rapport à la prière, combien j'ai besoin d'apprendre à prier, Seigneur. J'ai besoin que tu m'enseignes par ta parole, Seigneur, pour que mes prières puissent être centré sur ta volonté, centré sur toi. Seigneur, non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. Et Seigneur, tu veux que j'aille devant toi, tu veux que je vienne et que je prie, que je dépende entièrement de toi, tu veux que je vienne à toi avec mes fardeaux. C'est ça que tu veux, c'est ça ta volonté. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi à prendre ce temps ce temps tranquille, dans un endroit tranquille, où je pourrais centrer mes regards sur toi et te prier. Seigneur, aide-nous comme Église à grandir dans la prière, parce que si tout ce qu'on fait, puis on réalise qu'on le fait par nos propres forces, ça ne donnera rien, Seigneur, mais on a besoin de toi. C'est par ta grâce, Seigneur, qu'on fait l'œuvre que tu nous demandes de faire. C'est par ta grâce qu'on peut t'obéir. Viens, dans ta grâce, nous aider à faire ta volonté, nous remplir de ton esprit pour qu'on puisse être une église qui t'honore en toutes choses. Viens faire ton œuvre en nous, Seigneur, et que cette leçon ne puisse pas passer dans mon cœur ou rentrer sans avoir accompli son effet, Seigneur. Viens accomplir l'effet de tes Écritures par rapport à la prière dans mon cœur et dans nos cœurs pour qu'on puisse te prier et dépendre entièrement de toi. Seigneur, on veut te remettre cette matinée encore une fois. Garde nos cœurs centrés sur toi alors qu'on va chanter tes louanges. Seigneur, on est ici pour toi ce matin. On se présente devant toi comme ton peuple qui veut t'adorer. Conduis nos cœurs dans un moment de louange en étant remplis de ta joie. Et qu'on puisse, Seigneur, recevoir l'exhortation de ta parole pour l'appliquer et vivre pour toi. C'est au nom de Jésus que je te prie. Amen. Amen. Ouais. C'est bon. Pour la gloire de Dieu. J'ai juste mentionné une petite chose, une minute, OK? Je l'ai oublié de le dire, mais un livre qui m'aide dans la prière, c'est ce livre-là, ça s'appelle « The Valley of Vision ». Il est en anglais, eh oui. Mais c'est une collection des prières des puritains. Et chaque page, c'est une prière. Et lorsque les puritains étaient enracinés dans la saine doctrine, ils priaient les Écritures. Et vous voyez là des prières qui peuvent être votre prière. Alors là, il y a une prière sur l'orgueil. Ah oui, j'ai besoin de prier parce que, ouf, j'ai tout le temps de la lire. La lire en anglais, oui, c'est ça. Non, j'ai pas beaucoup de temps, mais quand même, je peux lire un petit bout, OK? « Oh, thou terrible meek, let not pride swell my heart. My nature is the mere beneath my feet, the dust to which I shall return. » In body, I surpass not the meanest reptile. C'est fort, hein? Dans mon corps, je ne surpasse pas le plus simple reptile. Je suis l'humilité dans le sens. Whatever difference of form and intellect is mine is a free grant of thy goodness. Every faculty of mind and body is thy undeserved gift. Low as I am as a creature, I am lower as a sinner. I have trampled thy law times without number. Sin's deformity is stamped upon me, darkens my brow, touches me with corruption. How can I flaunt myself proudly? Ça, c'est un bout, OK? Ça parle de mon péché, comment je peux avoir l'orgueil, moi qui est une créature, qui est juste simplement une de tes créatures, puis comment je peux m'élever au-dessus de toi, puis au-dessus de tes pensées, pensant que je suis juste un pécheur, je t'ai offensé plusieurs fois, comment je peux être orgueilleux? C'est bon, hein? C'est the Valley of Vision. J'ai déjà traduit une pour un dimanche matin dans la célébration. J'en ai déjà lu une, mais c'est précieux, OK? Donc, ouais, c'est ça. The Valley of Vision. C'est à vendre. Oui, sur Internet, on peut l'acheter, là, mais je ne sais pas si vous avez besoin. Je connais pas peut-être une librairie qui pourrait vous le procurer, là, mais Amazon puis les sites sur le. Ben non, il n'existe pas en français. Oui, c'est ça. Il n'y a pas d'auteur, c'est Archer Bennett qui a collectionné ça, mais c'est toutes les prières des puritains, plusieurs prières des puritains. Oui. Non, on ne l'a pas, mais si vous me dites que vous aimeriez l'avoir, je pourrais le commander pour vous puis l'avoir à la librairie là. Ouais, c'est ça. Ouais. Ça serait, je pense qu'il serait autour de dizaines de dollars là. Ouais. Ouais. Hein? Oui, c'est ça. Je peux en commander quelques-uns puis c'est bon. Ouais.